Bonjour et bienvenue en 2030 glorieuse. Je m'appelle Julien Vidal, je suis le fondateur du mouvement Ça commence par moi. À travers ce podcast, je pars à la rencontre des acteurs du monde de demain. Ils incarnent les utopies réalistes dont nous avons tant besoin. Ce sont des bâtisseurs, des idéalistes, des empêcheurs de tourner en rond, des personnes à l'écoute du vivant et d'eux-mêmes qui ont décidé de se mettre au service d'une cause qui les dépasse, celle de la création d'une société plus égalitaire, plus durable et plus heureuse. Ils sont des milliers en France à agir concrètement pour montrer que l'action est le meilleur remède contre le fatalisme et que, si nous agissons avec ambition et amour, la décennie des 2030 glorieuses est à portée de main. Bonne écoute. Bonjour Célia Favre.
Hello Julien.
Bienvenue dans le podcast 2030 Glorieuse, dans lequel je rencontre celles et ceux qui sont les signaux faibles des mondes de demain. Avant de commencer, je suis fier de vous dire qu'en 2021, le podcast 2030 Glorieuse continue à pousser plus loin la cohérence de sa démarche en nouant un partenariat avec la NEF. C'est une coopérative bancaire citoyenne qui soutient depuis plus de 30 ans les porteurs de projets sociaux, écologiques et culturels. Et c'est un partenariat qui me permettra de continuer à vous faire découvrir des personnes inspirantes tout au long de l'année. En parlant de personnes inspirantes, aujourd'hui, nous échangeons à distance avec Célia. Et nous allons parler de Oumai, une marque à impact qui propose des cosmétiques bio et naturels de qualité, agréables à utiliser et respectueux de l'environnement. Plus largement, nous parlerons de moins mais mieux, de l'évolution de notre modèle économique et de l'importance de refaire partie de la nature pour la préserver. Ça fait beaucoup de choses, mais pour commencer cet échange, Célia, je te pose la même question que je pose à tous mes invités au début. Qu'est-ce que tu réponds à celles et ceux que tu rencontres pour la première fois et qui te demanderont fatalement « Et toi, qu'est-ce que tu fais dans la vie ?»
Vaste question. C'est vrai que du coup, moi aujourd'hui, je suis l'une des cofondatrices de la marque Oumai, comme tu l'as dit. Et comme tu l'as expliqué, on fait des cosmétiques et des soins d'hygiène solides, engagés pour l'environnement, sans plastique, locaux, avec tout un tas d'engagements assez forts et assez poussés. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, j'essaye de... Enfin, pour moi, ça se limite pas seulement à nos produits. Et je pense que je suis aussi on essaye de faire bouger les consciences et on essaye d'importer aussi beaucoup d'informations pour transmettre tout ce que nous, on a pu apprendre justement dans nos différents projets et faire bouger un petit peu les consciences. Je pense que ça résume pas mal mon métier aujourd'hui.
On reviendra, Célia, sur effectivement les produits engagés et pourquoi, et sur, tu as commencé à le dire, votre travail presque de lobbying, d'éducation à la consommation et à ce fameux moins mais mieux dont on entend beaucoup parler et qui est un peu utilisé à toutes les sauces. Mais je suis désolé, je me permets d'insister. Tu dis que tu es la cofondatrice. Tu t'occupes sans doute, je ne sais pas, de manager l'équipe. Tu portes là, en l'occurrence, avec moi aujourd'hui, la voix d'Oumai, et je sais que tu le fais souvent sur les réseaux. Mais plus généralement, si on sortait un peu de la classification assez traditionnelle des postes qu'on voit actuellement, tu t'échines quand même à proposer des cosmétiques naturels faits en France. Du coup, est-ce qu'on pourrait dire que tu es, ambassadrice de la slow cosmétique ou même artisane en cosmétiques naturels? Tu vois, si on allait plus vers ça, quel nouveau poste tu te donnerais? Comment tu le définirais?
Moi, je me vois plus finalement comme une citoyenne, tu vois, qui avait envie de meilleurs produits de faire bouger l'industrie de la cosmétique. Donc, je nous vois souvent comme un petit peu la petite lumière qui veut montrer le chemin. Donc, ouais, exactement, en des termes, c'est pas facile. Je saurais pas exactement comment dire, mais tu vois, on est souvent ce petit groupe qui essaye de faire bouger les gros industriels qui sont bien installés depuis longtemps, qui font la même chose de la même manière depuis plusieurs années. Et nous, on essaye de leur faire se poser un petit peu des questions. On est peut-être cette petite voix qui vient dire est-ce qu'on pourrait pas faire les choses différemment et proposer d'autres solutions, quoi.
Mais justement, faire les choses différemment, quand on parle d'environnement, hein, avec toute l'angoisse associée à ces questions, parce que il y a le réchauffement climatique, il y a l'effondrement de la biodiversité, il y a la pollution plastique de l'air, des océans, etc., etc. On ne pense pas forcément à l'impact des cosmétiques. Pourquoi c'est si important de changer ce milieu aussi ?
Alors, c'est vraiment important pour plusieurs raisons. Tout d'abord, je pense que la chose dont on parle le plus et depuis le plus longtemps, c'est les ingrédients qui sont à l'intérieur des produits. Malheureusement, à la fin du XXe siècle, on a eu un fort essor de tous ces produits-là et il fallait que ce soit des produits qui soient très bon marché. Et pour faire des produits très bon marché, on a eu recours du coup à des produits de synthèse qui étaient donc non naturel, synthétisé en laboratoire, mais qui n'était pas forcément très bon pour la santé, parce que soit très efficace, soit très bon marché. Donc il y a eu les parabènes, les silicones, qui sont très mauvais pour l'environnement aussi. Il y a eu énormément de produits, de conservateurs qui nous permettaient de garder les produits extrêmement longtemps parce que souvent, ça restait dans des usines, dans des entrepôts pendant de nombreux mois, voire certaines années, ou dans les rayons des magasins pendant très longtemps. Donc, il y a eu toute cette partie où on a oublié un petit peu que la nature pouvait nous fournir plein de choses qui étaient très bonnes pour notre corps, très bonnes pour notre peau, très bonnes pour notre santé. Et on s'est tourné vers des produits qu'on pouvait synthétiser en laboratoire et qui étaient très peu chers pour faire baisser le prix des produits, pour pouvoir utiliser toujours plus de produits. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose aussi qui impacte énormément, c'est sur l'environnement, en effet, avec tout ce qui est packaging. Malheureusement, on a commencé à utiliser plein de produits qui étaient emballés dans du plastique parce que ça permettait d'avoir des produits qu'on peut garder partout, sous la douche, qui résistent à tout, qui résistent à tous les chocs, qui vieillissent très bien, qui se conservent très bien. Donc énormément de plastique, parfois des packaging de plus en plus développés, entre guillemets. Donc on avait l'impression que c'était une innovation, mais c'est vrai que c'était de moins en moins recyclable, de plus en plus d'éléments différents, de matériaux différents. Parfois, on peut avoir du plastique avec du métal, avec de l'aluminium, avec du carton. Enfin, voilà, des alliages de matériaux qui rendent les produits encore plus difficiles pour leur donner une seconde vie. Donc, il y a vraiment tout ce côté-là. Et il y a un côté aussi qu'on a tendance à oublier, c'est que certes les ingrédients ils peuvent ne pas être très bons pour notre santé, ils peuvent venir de très loin. Il y a beaucoup d'ingrédients qui sont présents dans les produits cosmétiques. On n'a aucune idée d'où est-ce qu'ils ont été fabriqués, d'où est-ce qu'ils ont été cultivés, si c'est des ingrédients qui viennent de la nature. Souvent ça peut être très très loin, on parle souvent du Made in France du fait que le produit soit assemblé, fini en France, mais dans le cas des cosmétiques, on ne sait jamais vraiment où ont été cultivés les ingrédients à la base, et il n'y a pas vraiment de transparence à ce niveau-là. Et surtout, on n'a pas conscience qu'une fois qu'on a utilisé un produit, si c'est des produits rincés qui ne vont pas rester sur notre corps, généralement ça va passer dans les eaux. Que ce soit les eaux de notre douche ou de notre lavabo. Malheureusement, aujourd'hui, il y a encore beaucoup d'ingrédients qui ne savent pas être retraités par les stations d'épuration et qui, du coup, finissent dans l'océan. C'est un peu ce qu'on a essayé d'expliquer avec la problématique des silicones et des ammoniums quaternaires qui sont présents dans les produits pour cheveux aussi, beaucoup, généralement. Ce sont véritablement des micro-particules de plastique qui sont mises dans les produits parce que ça a une super efficacité, mais ça, c'est impossible à retraiter aujourd'hui. dans les stations d'épuration et du coup, ça finit inéluctablement dans l'océan.
On voit bien, hein, tu l'as expliqué, la nécessité de longévité, de portabilité, de facilité d'ouverture, de stockage de ces produits qui sont censés aller avec le confort et l'amélioration de nos vies qui sont de plus en plus, comment je le dirais, complexe, multiple, aussi rapide, avec de nombreux déplacements. Et donc, on voit un peu cette évolution, on va dire, plutôt technique et logistique des produits dont tu parles. On voit aussi à quel point le marketing s'est emparé de ce sujet et que l'emballage est devenu en lui-même presque au moins aussi important, voire plus important que le produit qu'il contient. On parlera tout à l'heure, tu as commencé à évoquer le sujet de la santé. On en parlera tout à l'heure. Je veux notamment creuser avec toi la question du coût versus l'investissement et de pourquoi c'est assez normal que ces produits coûtent cher. Là où je voudrais t'entendre, et ça c'est vraiment une question qui me taraude depuis quelques mois, quelques années, c'est comment on a pu passer d'une complexité absolument affolante, hein, sur le milieu de la cosmétique où on nous vendait dans la publicité des produits toujours plus techniques dans des laboratoires presque volés à la NASA. On avait vraiment l'impression que c'était des choses ultra complexe à fabriquer et qu'on était dans le futur à chaque fois qu'on se mettait de la crème ou qu'on utilisait du savon, à une envie et presque même une communication à l'outrance aujourd'hui sur la simplicité des produits, des techniques de confection et comment vous aussi, vous arrivez à vous faire votre place là-dedans avec des produits qui sont... Je ne dis pas que c'est simple de faire ces savons et que tout le monde peut s'y mettre, mais du coup, des produits qui sont plus simples, plus traditionnels, plus locaux, plus naturels. Quelle est votre place aussi là-dedans ?
Ouais, c'est très juste ce que tu dis, parce que ça me renvoie justement un petit peu à ces publicités qu'on pouvait voir... il y a quelques années, ou qu'on peut peut-être même voir encore sur des crèmes où on nous montre presque pas l'ADN, etc. Mais enfin, ça allait assez loin. Et je pense qu'en fait, il y a eu un peu cette démystification du pouvoir de ces cosmétiques. En fait, on s'est rendu compte, je pense, en tant que consommateur, qu'il y avait aussi... c'était très embelli, que parfois, quand on nous vendait ça, finalement, quand on regardait réellement les listes d'ingrédients, on se rendait compte qu'il y avait beaucoup d'eau, beaucoup d'huile pas très qualitative. Je pense que ce qui a énormément aidé, c'est toutes ces applications qui permettent un petit peu aussi d'apprendre à lire les listes d'ingrédients. Je pense qu'au début des années 2000, très peu de personnes savaient lire des listes d'ingrédients. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui ont appris à mieux comprendre leurs produits, à mieux comprendre ce qu'ils se mettaient sur le corps, ce qu'ils achetaient tout simplement aussi, ce qu'ils cautionnaient du coup en achetant ça. Avant, on ne parlait pas du tout, en effet, des ingrédients qu'il y avait dans les produits, de savoir s'il y avait vraiment des ingrédients efficaces. Et en fait, on s'est rendu compte, je pense, que ces ingrédients dits très efficaces, très innovants, etc., représentaient une partie très, très, très infime de la formule. Alors, en effet, c'était peut-être une grande innovation technologique, mais malheureusement, à la hauteur où c'était présent dans la formule, on se demandait s'il y avait une réelle efficacité. Et c'est un petit peu ce contre quoi nous, on s'est battu en se lançant, c'est ce côté... voilà, s'il y a un ingrédient qui est dans la formule, il n'est pas juste là pour faire joli sur le packaging. Et ça, c'était très très important pour nous. Et je pense que justement, il y a vraiment cette envie d'avoir peut-être moins d'ingrédients, pas des listes incroyables, moins d'ingrédients, mais des ingrédients qui sont réellement là pour une raison, parce qu'ils sont efficaces. Et puis, on s'est surtout rendu compte que quand on s'attaque à la nature, il y a énormément de choses qui sont tout aussi efficaces que ce qu'on peut élaborer ou synthétiser en laboratoire, si ce n'est même plus, en fait. Et on a un peu, je pense, réappris les vertus de certaines plantes, retrouvé un peu cette puissance qu'on avait peut-être oubliée et qui se trouve tout simplement dans la nature. Et c'est pour ça que la cosmétique naturelle a autant émergé ces dernières années. C'est parce qu'elle a justement, je pense, pris le relais de ces innovations technologiques synthétiques qu'on mettait finalement à très très peu de pourcentage dans les formules, quoi.
si je le dis un peu de manière provoque, Célia, en fait, vous arrivez quand même dans un milieu où la R&D, en plusieurs centaines d'années, a jamais réussi à égaler le pouvoir du savon d'Alep. Donc, comment on fait pour arriver à, d'une manière, déconstruire un peu tous ces mythes, rééduquer les consommateurs, et puis aussi, j'imagine que vous avez cette envie de creuser, d'avoir un peu ces recherches enthousiasmantes qui vont vous permettre de proposer des produits à votre image avec des propriétés dont vous serez fiers.
C'est vrai qu'en fait, nous, notre challenge, c'est de proposer des produits et des soins qui sont en fait aussi agréables et efficaces que ce que les gens avaient l'habitude d'utiliser. Pourquoi il y a eu en fait ce switch entre justement, au départ c'était comme tu disais, tout ce qui était produit très très simple, très très brut, comme le savon d'Alep, etc. Et en fait pourquoi sont nés tous ces produits un peu sophistiqués, plus très naturels dans les rayons? C'est parce qu'en fait les gens avaient envie un petit peu de plus, de des produits vraiment très agréables, qui allaient avoir un effet sur le corps, le cheveu, très beau en fait, la beauté est réellement passé de, je pense, de pratico-pratique à quelque chose qu'on va prendre beaucoup de plaisir à utiliser et qui va extrêmement nous embellir, nous aider à mieux vivre finalement. Et en fait, nous, ce qu'on propose justement, et ce pourquoi c'est pas si facile que ça, c'est d'avoir ces mêmes qualités en fait que ce à quoi on a été habitué ces dernières années. Donc vraiment ce plaisir d'utilisation, ce côté aider à passer un bon moment, à mieux vivre et à prendre du plaisir, mais avec du naturel et de la simplicité. Et c'est ça qui est très difficile, parce que si on faisait que revenir en arrière, entre guillemets, sur des produits très très bruts, type savon d'Alep, on allait, entre guillemets, retrouver un petit peu les problématiques qui avaient poussé avant à switcher sur des produits moins naturels. Et du coup, nous, notre challenge, c'est de se dire qu'avec les plantes, on peut faire aussi bien que un petit peu le synthétique et le conventionnel actuel. Et ça demande quand même beaucoup de R&D. Et c'est pour ça qu'on a justement mes deux associées. Elles sont chimistes, elles sont ingénieures, et c'est elles qui passent énormément de temps à choisir et à trouver des plantes, des ingrédients, des matières premières innovantes, naturelles, qui vont nous permettre de faire les meilleurs produits, les plus agréables et les plus efficaces. En fait, le challenge, c'est d'arriver à retrouver cette efficacité vraiment quand même assez bluffante du synthétique et du conventionnel qui est là, et la transposer dans le naturel en la rendant encore plus performante et encore plus agréable, quoi.
Donc on parle du côté technique, là j'aimerais aussi t'entendre sur le côté économique, parce que économiquement parlant, on parle d'un secteur qui pèse très très lourd, avec plus de 200 milliards d'euros de chiffre d'affaires dans le monde, et quand même plus de 11 milliards rien qu'en France. Donc moi, ma première question, c'est: est-ce que la concurrence, elle n'est pas trop rude pour une petite marque hein, comme Oumaï? C'est rikiki quand on le compare à des géants comme L'Oréal. Et depuis le début de cette interview, tu me parles aussi de votre volonté de faire changer les pratiques, et donc d'une certaine manière de faire bifurquer ces géants. Donc qu'en est-il de votre rôle de lobbyiste?
C'est sûr qu'il y a du monde sur ce marché. Il y a vraiment... C'est un secteur très, très dynamique. Il y a sans arrêt des nouvelles marques qui se lancent. Je pense que c'est bien, parce que du coup, justement, ça montre que rien n'est acquis et qu'il faut sans cesse innover pour faire mieux, pour faire plus. C'est vrai que nous, je pense qu'on a su trouver notre place ces deux dernières années depuis qu'on s'est lancé, parce que finalement, on propose quelque chose qui est assez différent. Déjà, on essaye d'aller le plus loin possible dans tous les curseurs environnementaux, de qualité et du fait que les produits soient très agréables, mais aussi parce que dans notre communication, justement, on a une communication qui est assez décalée, qui est très, très, très tournée vers la nature. Et ça, c'est finalement assez rare sur la cosmétique. On est souvent, comme tu disais, sur le côté innovation, technique, très beauté. Nous, on trouve que la beauté, elle se trouve dans la nature. Donc forcément, tu vois, C'est marrant, mais par exemple, un tiers de nos publications sur Instagram, par exemple, c'est des paysages. Il n'y a pas de produits, il n'y a pas de personnes, c'est beaucoup de paysages. Parce que bah, nous, c'est aussi ce qui nous inspire et c'est ce qu'on a envie de transmettre. Et du coup, je pense que ça fait notre différence aujourd'hui. Et c'est aussi ce qui fait que ben, nos clients sont contents de pouvoir avoir une marque qui propose des soins et des cosmétiques qui a cette communication différente. Et pour revenir à ce que tu disais sur le côté un petit peu montrer l'exemple, moi, mes expériences précédentes avant Oumaï, je les ai faites dans le monde de la cosmétique. Et quand on est profondément engagé dans sa vie personnelle et qu'on travaille dans ce secteur, même si c'était des marques naturelles, on est vraiment confronté au fait que les choses bougent finalement assez peu vite. Et moi, je me disais que c'était quand même assez dingue. Pas le peu de... Je dis pas qu'ils sont pas concernés, bien évidemment, mais il y a 3, 4, 5 ans, il y avait plein de préoccupations qui n'étaient pas vraiment à l'ordre du jour. Le plastique, voilà, on se disait c'est impossible de l'éliminer complètement. Le local, on n'en parle même pas. Donc, je pense que nous, notre rôle aussi, vraiment, avec Oumaï, c'est... Moi, j'aime bien les challenges et j'aime bien me dire qu'on montre et qu'on prouve que c'est possible, en fait. Et que du coup, si nous, petite marque, avec beaucoup, beaucoup de volonté, on y arrive, ben, d'autres peuvent suivre, en fait. Et c'est un petit peu ça aussi qu'on a envie d'insuffler et qu'on a envie aussi de faire avec les différents industriels, les différents partenaires qu'on a aujourd'hui. Souvent, on les bouscule un petit peu, on leur demande des choses qui sont clairement pas à l'ordre du jour pour eux aujourd'hui. On essaie de les mettre en relation aussi pour justement créer des synergies. Si on a trouvé un partenaire qui a développé quelque chose de génial pour le packaging, mais qui a besoin d'un autre de nos partenaires pour le mettre en œuvre, ben en fait, on va essayer de les faire se parler pour que justement ils puissent innover par rapport aux produits dont nous on a besoin et que nos clients nous demandent en fait.
Merci Célia pour la description d'Oumaï, de ton travail d'exemplarité. Hein. On l'entend beaucoup dans ce milieu qui change très vite, tu l'as dit, qui est en train de prendre conscience et de se mettre à la hauteur, beaucoup par la communication et encore assez peu, je trouve, par les nouvelles formules et les nouveaux produits. Mais il y a quelque chose qui est en train de se passer et l'exemple d'Oumaï est assez représentatif. Avant de partir dans les utopies réalistes et de mener ce voyage ensemble vers 2030 glorieuse, à chaque fois, on termine la première partie par un cadeau que l'invité nous fait et donc que tu vas nous faire. Tu vas nous offrir une parenthèse d'inspiration et nous ouvrir une fenêtre à travers la littérature, parce que moi je suis persuadé qu'il y a dans nos romans tout un tas de pistes qui montrent à quoi pourrait ressembler le monde de demain, que en fait tout est déjà autour de nous, et je voulais que tu nous partages une utopie qui a particulièrement résonné en toi. Laquelle est-ce?
Alors moi j'ai choisi un extrait du roman Dans les forêts de Sibérie de Sylvain Tesson. Et ça résonne particulièrement en moi, donc ça me plaisait beaucoup. Un pas de côté. Je m'étais promis avant mes 40 ans de vivre en ermite au fond des bois. Je me suis installée pendant 6 mois dans une cabane sibérienne sur les rives du lac Baïkal, à la pointe du cap des Cèdres du Nord. Un village à 100 km, pas de voisins, pas de route d'accès, parfois une visite. L'hiver, des températures de moins 30 degrés. L'été, des ours sur les berges. Bref, le paradis. J'y ai emporté des livres, des cigares et de la vodka. Le reste, l'espace, le silence et la solitude étaient déjà là. Dans ce désert, je me suis inventé une vie sobre et belle. J'ai vécu une existence resserrée autour de gestes simples. J'ai regardé les jours passer face au lac et à la forêt. J'ai coupé du bois, pêché mon dîner, beaucoup lu, marché dans les montagnes et bu de la vodka à la fenêtre. La cabane était un poste d'observation idéal pour capter les tressaillements de la nature. J'ai connu l'hiver et le printemps, le bonheur, le désespoir, et puis finalement, la paix. Au fond de la taïga, je me suis métamorphosée. L'immobilité m'a apporté ce que le voyage ne me procurait plus. Le génie du lieu m'a aidé à apprivoiser le temps. Mon ermitage est devenu le laboratoire de ces transformations. Tous les jours, j'ai consigné mes pensées dans un cahier. Ce journal d'ermitage, vous le tenez dans les mains. 18 février, je voulais régler un vieux contentieux avec le temps. J'avais trouvé dans la marche à pied matière à le ralentir. L'alchimie du voyage épaississait les secondes. Celles passées sur la route filaient moins vite que les autres. La frénésie s'empara de moi. Il me fallait des horizons nouveaux. Je me passionnais pour les aéroports où tout invite à la sortie et au départ. Je rêvais de finir dans un terminal. Mes voyages commençaient par des fuites et se finissaient en course-poursuite contre les heures. Il y a 2 ans, par hasard, j'avais eu l'occasion de demeurer 3 jours dans une cabane de bois sur les bords du lac Baïkal. Un garde-chasse, Anton, m'avait accueilli dans la minuscule isba qu'il occupait sur la rive orientale du lac. Il portait des lunettes hypermétropes et ses yeux grossis par les verres lui donnaient un air de batracien joyeux. Le soir, nous jouions aux échecs, le jour, je l'aidais à relever les filets. Nous ne parlions presque pas, lisions beaucoup. Huisman pour moi, Hemingway pour lui, qu'il prononçait Hemingway. Il avalait des litres de thé, je partais marcher dans les bois. Le soleil inondait la pièce, des oies fuyaient l'automne. Je pensais au mien. On écoutait la radio, la speakerine annonçait les températures à Sotchi. Anton disait « Cela doit être bien la mer Noire ». De temps en temps, il jetait une bûche dans le poêle, puis la journée tirée, il sortait l'échiquier. On buvait des petits coups de vodka et on passait les pions. J'avais toujours les blancs et je perdais souvent. Ces journées interminables passèrent vite. Je songeais en quittant mon ami « Voilà la vie qu'il me faut ». Il suffisait de demander à l'immobilité ce que le voyage ne m'apportait plus, la paix.
Merci Célia. Pourquoi tu as choisi cet extrait ?
Parce que il m'a vraiment touchée sur le côté où en fait on oublie parfois de se reconnecter vraiment à la nature. Et je pense que c'est quelque chose qu'on a perdu ces dernières années. Je pense que ça fait pas très longtemps que la société et que la civilisation a perdu ça. C'était quelque chose de très très présent avant. Et moi, je sais que c'est justement dans la nature souvent que je trouve mon inspiration, que je me sens bien. Et c'est aussi la vie que j'imagine pour plus tard, une vie moins citadine, plus proche de la nature. Et je pense que c'est en l'écoutant qu'on trouvera la solution à de nombreux de nos problèmes. Donc, c'est un petit peu pour ça que j'ai choisi ça.
Eh bien, c'est une parfaite transition pour notre voyage et notre reconnexion à la nature, puisque ça y est, nous sommes en 2030 glorieuse. Tu t'en es pas rendu compte, mais pendant que tu lisais, nous avons effectué le voyage le plus extraordinaire et le plus écologique en même temps. Nous allons faire fonctionner nos imaginaires. Alors, là, il y a un problème, ou en tout cas une limite, ou un obstacle, je ne sais pas comment l'appeler. C'est que les Français, ils sont pas très habitués à faire fonctionner leur imaginaire, ou en tout cas... cette partie optimiste, positive, utopiste même, que nous avons un peu mise de côté, parce que quand on se mettait à l'utiliser, on nous traitait immédiatement de bisounours pour mettre un terme définitif voilà, à ces rêves un peu fous, qui sont pour moi des caps nécessaires et un travail absolument fondamental avant de se mettre dans l'action, et qui vont à terme, j'en suis persuadé, nous permettre de transformer toute la société. Donc là, on va essayer de jouer le jeu. Hein, je sais que c'est pas évident, mais on est aujourd'hui en 2030, donc on parle au présent en 2030. On va essayer de ne pas faire trop d'aller-retour avec 2020 et de ne pas se tromper dans les époques et dans les temps, si tu le veux bien. D'ailleurs, du coup, les personnes qui nous écoutent, elles sont en 2020 et elles ont besoin qu'on les aide désespérément à illustrer et à donner de l'épaisseur à ce qu'on voit. Donc, pour les aider, Célia, est-ce que tu peux, s'il te plaît, leur dire ce que tu vois, toi, là, quand tu as les yeux ouverts en 2030 glorieuse ?
Alors du coup, ce que je vois en 2030, C'est un monde assez différent de ce qu'on avait pu connaître avant. Il y a beaucoup de liens entre les gens. Les gens ont réappris, entre guillemets, à se parler et à moins avoir peur les uns des autres. En fait, on s'est rendu compte qu'il fallait qu'on se soutienne si on voulait avancer plus loin dans les épreuves. Il y a eu beaucoup de crises climatiques ces 10 dernières années et on s'est rendu compte que si on faisait les choses chacun de notre côté, ça allait être compliqué de continuer à avancer. Donc, on a recommencé à se parler. Alors, on se parle bien évidemment sur les réseaux sociaux, etc. Mais on se parle aussi beaucoup en vrai. On a moins peur de l'autre. En fait, on s'est rendu compte que c'était pas vraiment les autres qui allaient faire qu'on allait peut-être courir à notre perte, mais que c'était plutôt la nature qui allait nous absorber si on n'était pas conciliante avec elle. Et donc ça c'est une des premières choses. Et après, ce que je vois, c'est aussi une société qui a changé parce qu'elle possède beaucoup moins de choses. On court beaucoup moins après les possessions matérielles. On n'a plus besoin d'avoir le dernier objet à la mode. Parce qu'on s'est rendu compte que si on avait besoin de bouger rapidement, on n'allait jamais pouvoir tout transporter de toute façon. Donc ça servait à rien de posséder beaucoup de choses et qu'on avait juste besoin de choses utiles qui avaient vraiment une valeur pour nous. Parce qu'il y a quelques années, on achetait des choses et parfois on oubliait en fait qu'on les avait parce qu'elles ne comptaient pas vraiment pour nous. Donc ça c'est un des trucs qui a bien changé aussi ces dernières années. Et puis les gens sont contents de travailler maintenant. Je me souviens en 2020, tous mes amis me disaient qu'ils trouvaient pas de sens dans leur travail, qu'ils se demandaient pourquoi ils se levaient le matin. Et ça a changé. J'ai l'impression que maintenant les gens sont contents de travailler parce qu'ils ont l'impression d'être utiles à la société, ils ont l'impression de faire quelque chose qui sert la communauté. Et il n'y a plus vraiment de job qui serve à rien et qui s'appuie sur des choses juste qui permettent de faire plus vendre. On s'est rendu compte que quand on avait besoin de moins, on serait plus heureux. On n'a pas besoin aussi de partir toujours à l'autre bout du monde. On a arrêté de voyager aussi souvent et aussi loin. Alors bien sûr, on découvre toujours des nouveaux territoires parce que c'est quand même super inspirant, mais quand on part longtemps. Et on part pour une bonne raison. On ne veut pas juste aller voir comment c'est là-bas. On a un peu plus un projet, on se dit qu'on va y amener quelque chose aussi et que ça va nous enrichir d'une certaine manière. Le tourisme, etc., ça n'existe plus vraiment. On cherche plutôt à vivre des expériences, à rencontrer des gens et à se nourrir plutôt que d'aller simplement prendre le soleil quelques jours là où il n'y en a pas chez nous actuellement, par exemple. Parce qu'on a réappris à vivre avec les saisons et à plus apprécier chaque saison à sa juste valeur.
Tu parles d'une transformation quand même radicale, hein, Célia. Et dans beaucoup de ce dont tu parles, il y a la nécessité de la transformation intérieure. Parce que là, on passe en 10 ans, on est passé en 10 ans d'une société où l'individu était tout là-haut sur la pyramide de la surconsommation et donc cet individu voyait les autres individus comme des au mieux compétiteurs, au pire comme des ennemis à abattre et non pas comme des richesses. Le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui en 2030 glorieuse et que tu as commencé à dépeindre voit l'autre comme une richesse et ça c'est quand même un changement radical parce que là où à l'époque il fallait s'entourer de biens pour justement combler ce vide, en fait, le lien à l'autre, mais aussi à nous-mêmes, hein, parce qu'il y a forcément cette nécessité de l'intériorité pour être suffisamment solide, pour oser à nouveau ouvrir la porte aux autres et laisser derrière nous cette peur, on se rend compte qu'on arrive à se remplir de manière beaucoup plus saine des autres, de leur complexité, et puis même d'oser du coup ouvrir ses portes et reprendre la place dans la nature. Et tu en parles avec le sens, tu en parles avec la relation au temps, la relation à l'espace, et c'est pour ça, là, tout ce que tu dis, ça me fait penser à ça. J'ai vraiment envie qu'on arrive à incarner ça, et donc je vais rester sur ton expérience à toi, puisqu'en 2020, je ne sais pas si tu t'en souviens, je ne sais pas si c'est toujours le cas, tu nous le diras en fin d'émission, mais tu travaillais dans le milieu des cosmétiques naturelles. Comment elle a, déjà de manière très très large, comment elle a été transformée cette industrie et à quoi elle ressemble en 2030? De manière un peu plus triviale, j'aurais tendance à te poser la question de savoir combien il a fallu d'Oumaï pour remplacer les L'Oréal.
Ben, c'est assez marrant, mais c'est vrai que en fait, on s'est vite rendu compte que plus une entreprise était très très grosse, moins elle avait le pouvoir de s'adapter rapidement aux enjeux auxquels la nature nous faisait faire face. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il fallait que ce soit beaucoup plus de petites entreprises qui allaient pouvoir réagir vite et s'adapter vite. Parce que ben, là, on a vécu des changements, mais il y en aura aussi qui arrive dans les années à venir, en 2040, en 2050. On n'est pas vraiment encore sorti d'affaire, et je pense qu'on le sera jamais vraiment, parce que on est tellement nombreux aujourd'hui qu'il faut qu'on arrive à vivre avec la nature et à vivre sur la Terre. Et du coup, il a fallu, ouais, on a été parmi les premières vagues, mais il a fallu beaucoup d'entreprises un petit peu comme nous, pour justement faire comprendre à ces grandes entreprises que c'était compliqué, en fait, quand on devenait vraiment trop gros, de pouvoir vraiment tenir ses engagements. Et c'est aussi pour ça que nous, on n'a pas voulu grossir de manière démesurée, pour pouvoir justement rester dans cet engagement local, dans cet engagement de sens. Nous, on a jamais vraiment cherché à produire plus de produits, ou une fois qu'on a eu sorti les produits dont on avait besoin, tout simplement, on n'a pas eu besoin de créer de nouveaux besoins. On n'a pas cherché à créer un produit qui allait servir que pour un seul usage. On a essayé de mutualiser tout ça, pour que, in fine, il y ait le moins de produits nécessaires possible, juste ce dont on avait besoin et qui était agréable à utiliser.
Et tu parlais du lien à l'autre, Célia, tout à l'heure, quand tu commençais à décrire 2030, Glorieuse. Quel est le lien entre toutes ces marques? Justement, tu dis qu'il va y en avoir plein, des petites, qui sont plus résilientes, plus adaptables, nécessité aussi d'adaptation locale, avec des savoir-faire, des ressources qui sont particulières. Quelle place a la compétition aujourd'hui, et surtout quelle place a l'entraide entre toutes ces marques, et jusqu'à quel point Oumaï a réussi à incarner ça, plutôt que de dire ah tiens, il y a tout un tas d'autres marques qui se lancent dans le même secteur que nous. En fait, comment on peut s'entraider, parce que si je parlais de L'Oréal tout à l'heure, c'était un peu à dessein, sur les centaines de millions voire les milliards d'euros de chiffre d'affaires qu'a L'Oréal, et on a de la place pour des milliers d'Oumaï. Donc comment vous vous entraidez, et quelle est la relation que vous avez avec les autres savonneries et marques de cosmétiques?
Comme tu le dis, il y a de la place pour tout le monde, chacun avec son identité un petit peu propre. Je pense que toutes les personnes qui se sont lancées dans ces aventures-là, justement, ont mis leurs pattes, ont mis un petit peu de leur âme. Moi, je le dis souvent, c'est vrai que Oumaï, c'est un petit peu un prolongement de nous tous aussi, de tous les gens qui y travaillent. Donc, je pense qu'on fait tous les choses de manière assez différente. Et je pense que du coup, on s'adresse aussi à des personnes différentes. Donc, on a complètement le moyen de s'entraider. Alors, c'est pas facile, parce que c'est vrai que c'est pas vraiment les codes dont on a eu l'habitude par le passé. Souvent, des marques qui font les mêmes produits sont en effet plutôt considérées comme concurrentes, et on a pas envie que les autres nous piquent des idées, etc. Et je pense que ça, c'est un modèle qui ne sert plus aujourd'hui, puisque on se rend bien compte qu'en effet, si demain des L'Oréal, etc., n'existent plus ou existent différemment, il faudra bien les remplacer et les gens continueront de se laver, de prendre soin d'eux. Et c'est plus intéressant de se mettre à plusieurs pour peut-être développer des nouvelles choses, des nouveaux packaging, des nouveaux ingrédients innovants. Et en fait, tout simplement aussi, on le voit par exemple avec un ingrédient. S'il y a une entreprise justement qui innove et qui se lance dans un nouvel ingrédient très innovant, ou un nouveau papier, ou un nouveau packaging très innovant, en fait, cette entreprise, elle a besoin d'avoir aussi pour tourner et pour ses salariés et pour le bien-être de sa société, d'avoir un carnet de commandes, d'avoir plusieurs entreprises qui vont lui commander ces produits-là. Et pour ça, on a besoin d'avoir plusieurs entreprises qui sont très engagées pour avoir envie d'utiliser ces choses-là. Donc oui, c'est important d'essayer de se tourner vers plus de coopération et moins de compétition, mais c'est encore quelque chose de difficile, je pense, parce que c'est un peu des restes de ces anciens modèles et on a plus eu l'habitude de se tirer dans les pattes, entre guillemets, que d'essayer d'avancer ensemble. Et pourtant, c'est comme ça qu'on trouve les solutions, je pense.
Ton exemple de soutenir l'innovation et donc de s'entraider pour faire grossir les carnets de commandes est très parlant. Moi, j'avais une autre idée en tête au moment où je te posais la question. C'était de savoir comment les entreprises engagées comme les vôtres pouvaient aussi s'associer pour réussir à préserver les ressources, et notamment vous, c'est les produits naturels que vous utilisez. Parce que tu l'as bien dit, hein, en 2030 Glorieuse, on continue à avoir tout un tas de choses à changer. La nature continue à être agressée, ravagée. Il y a de plus en plus d'espèces en disparition. Tout ne peut pas changer pour le mieux, même en 10 ans, même si on se retrousse sincèrement les manches. Et donc, jusqu'à quel point vous allez aussi avoir, vous, la nécessité de vous rapprocher des marques qui ont les mêmes valeurs que les vôtres pour préserver un stock de produits qui vous permettra d'exercer vos activités sereinement, et puis même aller plus loin, régénérer tout un tas d'écosystèmes en vous disant, voilà, ces endroits-là, on n'y touche pas, il y aura tout un tas de choses qui vont pousser et qui vont contribuer à un équilibre dont on a besoin pour les prochaines décennies. Jusqu'à quel point, en 2030, on a inclus la préservation, la sauvegarde des ressources naturelles dans le business plan des entreprises ?
C'est vrai que c'est quelque chose qui est né au fur et à mesure des années, quand on s'est peut-être rendu compte qu'il y avait certaines matières premières dont les prix commençaient à exploser parce qu'elles devenaient de plus en plus rares. On s'est rendu compte qu'il fallait peut-être qu'on prenne les choses en main un petit peu plus en amont des chaînes d'approvisionnement, et qu'en tant que marque, si on voulait continuer à innover et à faire les produits qu'on faisait, on avait besoin en effet de s'associer les uns aux autres pour potentiellement racheter des espaces, cultiver certaines choses nous-mêmes à plusieurs sur certains territoires. Surtout que nous, depuis le début, on a toujours voulu utiliser que des choses qui poussaient pas trop loin. Donc c'est vrai que ça, il y a de plus en plus de marques qui se sont mises à le faire, puisque c'est plus simple et c'est moins coûteux en énergie. Donc voilà, on a essayé de mutualiser un petit peu ça quand justement on s'est rendu compte que potentiellement ça allait devenir compliqué si les conséquences étaient trop importantes sur les prix des matières et que peut-être demain on allait avoir du mal à faire pousser certaines plantes qu'on avait en 2020.
Oui, parce que ce que tu es en train de dire, c'est qu'en fait, quand la consommation a changé vers plus de naturel, y a aussi eu une raréfaction de certaines ressources que vous utilisiez au début et dont vous étiez un peu les seuls ou presque à vous servir pour vos produits. Et donc ça, il a fallu le protéger et puis voir sur le temps long. Hein, ça me fait penser à il y a plus de 10 ans en arrière, déjà, les grands groupes de café ou de chocolat commençaient à s'organiser pour préserver développer et même diversifier leurs ressources parce qu'ils voyaient leurs matières premières de plus en plus difficiles à obtenir et tu l'as dit coûteuses. Et donc moi ça me pose la question aussi du bien-être, on en parlait tout à l'heure en première partie de notre échange. Comment, du coup, maintenant, et c'est ça qui m'intéresse, maintenant que le consommateur est devenu éduqué, qu'il a compris qu'il y avait effectivement cette nécessité d'acheter moins, d'acheter mieux pour la planète, mais aussi pour lui-même, comment on a réussi à passer de cette notion de coût, qui était très clivante hein, il y a encore quelques années en arrière, parce que franchement, payer 15 euros pour un savon, c'est juste hors de prix, à une notion d'investissement, un investissement pour la planète, pour notre santé, qui nous permettrait d'être du coup en meilleure santé pendant plus longtemps, etc., etc. Comment toi tu as vu cette transformation là?
Ben c'est vrai qu'il y a eu d'énormes travaux d'éducation qu'ont été faits et en fait je pense que c'est un peu quand on voit la vérité en face, quand on a les informations. En fait je pense que un peu du jour au lendemain les citoyens ont commencé à se rendre compte de certaines choses et vraiment à prendre conscience concrètement, parce que souvent, il y a à la fin des années 2010, on nous disait directement les conséquences environnementales, on nous disait qu'il allait y avoir plus de plastique que de poissons dans les océans d'ici quelques dizaines d'années. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que dans les années qui ont suivi, on est vraiment rentré en profondeur dans les sujets, pour pouvoir concrètement expliquer ce qui se passait de manière assez ludique et pédagogique. Et en fait, beaucoup, beaucoup de marques se sont mis à faire ça, beaucoup d'associations. Et en fait, ça a permis aux gens de vraiment avoir conscience des choses. Et il n'y avait plus l'excuse de « on ne peut pas savoir » ou « on ne sait pas ce qui se passe ». Voilà. Et en fait, tout le monde a un peu pris cette vision un petit peu plus globale. Et quand on se retrouvait à acheter des choses, ben finalement, on voyait plus le produit en lui-même comme il était sur un rayon, mais on pensait à tout ce qui s'était passé avant ou alors tout ce qui allait se passer après. Qu'est-ce que ça voulait dire en fait ? Et du coup, on a tous pris un peu plus de recul et de hauteur sur tout ce qu'on tenait entre nos mains et qu'on avait créé. Et du coup, c'est vrai que forcément, quand il y a eu aussi des problèmes de santé qui ont été de plus en plus présents ou des problèmes environnementaux qu'on a un peu de plus en plus vus sur nos plages ou dans nos montagnes, plus la réalité nous a un petit peu rattrapés, plus le prix a été vu en effet comme un investissement sur le long terme et surtout comme une nécessité en fait de mettre ce prix-là pour s'assurer un avenir, en fait.
Un consommateur averti en vaut deux, c'est ce que j'entends. Et donc, du coup, cette nécessité d'éducation, elle a été faite pendant ces 10 dernières années. Je me rappelle, hein, d'ailleurs, en 2020, à l'époque, on se connaissait déjà et tu m'avais proposé de participer à la semaine de l'art de vivre sans plastique, de mémoire. Et donc, c'était typiquement dans cette tendance-là. Célia, dernière question, en 2030, avant de revenir en 2020, toi, tu fais quoi en 2030, Glorieuse ?
Je continue d'agir pour l'environnement. Alors, bien sûr, on a encore Oumaï qui continue de faire des super produits, mais qui fait plus seulement ça. On a développé des programmes qui permettent aussi aux citoyens de s'engager, de faire des choses à leur échelle. Il y a toutes sortes de choses. On supporte plein de projets. On a soutenu pas mal de personnes qui, elles aussi, voulaient se lancer dans des entreprises un petit peu plus locales et durables. Donc voilà, on essaye d'être un petit peu un incubateur de plein de d'initiatives citoyennes. Moi, je vis aussi... plus proche de la nature et j'essaye de partager mon amour pour les expériences en nature parce que je pense que c'est aussi ça qui nous donne encore plus l'envie de la protéger et du coup j'organise des activités sur plusieurs jours qui permettent de partir justement dans la nature, se reconnecter à elle et retrouver son inspiration Et voilà.
Peut-être avec nos amis de Chiloé qui sont en Haute-Savoie aussi notamment. Merci Célia de t'être prêtée à ce jeu du voyage dans les utopies réalistes. On est de retour en 2020. Les personnes qui nous ont écoutées, elles se sont enthousiasmées avec nous hein, de cette nouvelle relation à l'entreprise, à la consommation, à la nature. Et à la fois, on est toutes et tous happés par le quotidien qui est lui là inexorablement et qui va nous ramener à notre to-do list, à nos factures, à tout un tas de sujets qui nous éloignent de cette envie de se mettre au service du vivant. Du coup, toi, maintenant, qu'est-ce que tu leur proposerais comme premier pas pour marcher vers ces caps qu'on a dessinés ensemble ?
De faire un pas de côté dans la nature. Non, je pense que réellement, comme je le disais, hein, moi, ce qui me permet de me reconnecter à tout ça, c'est de faire des pauses, justement, comme tu disais, loin de nos factures, de nos to-do list, etc. C'est bien. Moi, j'adore être dans l'action, j'adore faire énormément de choses, etc. Mais je pense que c'est aussi, pour être sûr d'aller dans la bonne direction, dans toutes ces to-do list, etc., je pense que c'est hyper important de réapprendre à apprécier l'instant, et encore plus l'instant dans la nature. Et du coup, ce serait d'aller faire une balade à vélo, une balade en forêt. On a tous pas très loin, normalement, de la nature proche de nous, et d'inspirer un grand coup et de se demander si on est content d'être là où on en est aujourd'hui. Et si c'est pas le cas, d'essayer de faire que ça change.
Merci Célia. Ça y est, cet échange avec Célia vient de se terminer. Un échange passionnant où on a, je vous l'avais promis, parlé de l'évolution de nos entreprises, de l'évolution de nos achats, de notre consommation, de ce fameux moins mais mieux, de la ligne parfois un petit peu fragile et fine entre greenwashing et vrai engagement, et de la nécessité de revenir à la fois à des produits qui sont beaucoup plus simples, mais où le confort d'utilisation peut être préservé sans avoir ce sentiment de faire des sacrifices. Ce qui m'intéressait surtout derrière cet échange, c'est de montrer à quel point le monde qui nous attend, il est foisonnant. On nous dit toujours ces gros monopoles, on peut pas les faire tomber, et si on les fait tomber, c'est tout un tas d'emplois en moins et puis des savoir-faire en moins. Mais en fait, au contraire, l'idée de dire que ces entreprises qui aujourd'hui sont présentes sur toute la surface du globe et qui sans tomber dans la caricature, transmettre plus d'argent aux actionnaires qu'aux employés, disparaissent, mais en fait c'est hyper enthousiasmant parce qu'on imagine des milliers de marques comme Oumaï, recréer un maillage économique fin sur le territoire et s'approprier les spécificités locales, les matières premières à proximité, les savoir-faire, les histoires, pourquoi pas même les cultures. Enfin, il y a vraiment quelque chose à faire avec à la clé plus d'emplois, des produits originaux et puis la fierté aussi d'utiliser des produits de personnes dont on connaît vraiment le nom, le prénom, et qui font partie des gens qui facilitent, accélèrent et dynamisent le tissu économique local. Et puis plus largement, on a ouvert notamment avec la lecture de Sylvain Tesson la porte de la reconnexion à la nature et de comment on doit non pas continuer à la dominer, mais au contraire à nouveau se fondre dans cette nature et se remettre au service du vivant dans sa globalité. C'est un épisode vraiment passionnant et je suis persuadé, je vous le promets, je vais faire tous mes efforts pour vous proposer encore plus d'épisodes passionnants. Donc je vous dis à dans 2 semaines et d'ici là, je vous souhaite une excellente journée. Salut! Merci d'avoir pris le temps de voyager en 2030 glorieuse avec nous. Vos commentaires et suggestions sont les bienvenus et abonnez-vous à ce podcast pour être sûr de ne pas rater les prochains épisodes. Moi, je vous dis à très vite pour découvrir ensemble d'autres utopies réalistes et je vous donne rendez-vous sur ça commence par moi.org pour construire ensemble un monde meilleur dès aujourd'hui. Salut !